Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imitait son silence.
Est-ce vous qui comprendrez pourquoi, serein, sous une tempête de sarcasme, au dîner des années futures, j'apporte mon âme sur un plateau ?
Vladimir Maïakovski. Et oui, chers auditeurs, bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Et donc aujourd'hui, nous allons faire une émission spéciale sur Vladimir Maïakovski avec Fatah Boudia. Bonjour Fatah.
Bonjour.
Pauline Thirault.
Salut.
Amandine Vincent.
Bonjour.
Anne-Sophie Ortiz-Bally.
Salut.
Thomas Lynn.
Bonjour.
Et Jules Jobard.
Bonjour.
Vous l'avez compris, on est nombreux dans le studio. Il y a même Salim qui est là pour être le public et puis Gustave qui est aussi là. Donc on est tous là pour faire cette émission sur Vladimir Maïakovski.
Maïakovski.
C'est-à-dire Vladimir ou Volodia.
1893, année de l'après-midi d'un faune, naissance de Maïakovski en Géorgie.
Maïakovski.
Enfant caucasien.
Ludmila et Olga, les sœurs aînées de Maïakovski.
La passion de Maïakovski pour les cartes, les dominos et le croquet.
Constantin, le petit frère mort de Maïakovski.
Maïakovski.
Ambidextre. Le père de Maïakovski, conservateur des eaux et forêts et non garde forestier.
Maïakovski.
Fils.
Le prénom de Maïakovski, fils répétant celui du père.
La mort, septicémie du père de Maïakovski.
Il a 12 ans.
Maïakovski.
Et la phobie de l'infection.
Maïakovski.
Jeune homme pauvre.
Maïakovski.
Et l'activisme politique.
Maïakovski.
À Moscou.
Maïakovski.
Et le parti bolchevique.
Maïakovski.
Agitateur.
Maïakovski.
Emprisonné.
Maïakovski.
Admis à l'école de peinture en classe de dessin.
Maïakovski.
1m81 et non 90.
Les longs cheveux de Maïakovski.
Le feutre noir de l'étudiant Maïakovski.
La dentition de Maïakovski. Quand il parlait ou souriait, on ne voyait que quelques chicots bruns, complètement cariés, plantés de travers comme des clous.
Maïakovski.
Fils d'armes de David Bourliouk, père du futurisme.
Maïakovski.
Et les cartes.
Maïakovski.
Et le billard.
Les 100 cigarettes quotidiennes de Maïakovski.
Maïakovski.
David Bourliouk, Velimir Klebnikov et Alexei Krouchonik.
Maïakovski.
Futuriste.
La blouse jaune de Maïakovski.
Maïakovski.
Amoureux.
Maïakovski.
Et Elsa.
Maïakovski.
Et Lily.
Maïakovski.
Et Ossip Brick.
Maïakovski.
Publiant sur les différents Maïakovski.
Ossip Brick, éditeur de Maïakovski.
Maïakovski.
Homme. Non, mais nuage en pantalon.
Maïakovski.
Intitulant sa première pièce de théâtre, Vladimir Maïakovski.
Maïakovski.
Dédoubleur.
Maïakovski.
En 13e apôtre.
Maïakovski.
Et les loups-box.
Maïakovski.
Et la guerre.
Maïakovski.
Change ses dents.
Maïakovski.
Et les deux sœurs.
Maïakovski.
Et le suicide. Le cœur aspire au revolver. Au rasoir, la gorge rêve.
Maïakovski.
Boit du cognac et joue au billard avec Jacobson.
Maïakovski.
Et Gorky.
Maïakovski.
Et la révolution de février.
Maïakovski.
Et la révolution d'octobre.
Maïakovski.
Et la chronologie.
Maïakovski.
Et le relativisme moral.
La prestance Maïakovski.
Maïakovski.
Au Maïakovski, au café des poètes à Moscou. Le futurisme à la cote.
Maïakovski.
Et l'anarcho-socialisme.
Maïakovski.
Et l'avant-garde artistique.
Maïakovski.
Et l'avant-garde politique.
Maïakovski.
En petit chien.
Maïakovski.
À Lily. Pourquoi ne m'écris-tu pas un seul mot? Pas de ça, mon enfant. Cela ne te va pas au teint. Écris, écris, je t'en prie.
Maïakovski.
Et le cinéma. Ayant connaissance de la technique du cinéma, j'ai fait un scénario qui se plaçait à côté de notre travail novateur en littérature.
Maïakovski.
Scénariste. Il adapte Martin Eden de Jack London.
Maïakovski.
Acteur.
L'endurance phénoménale de Maïakovski.
Le poète doit manier son matériau avec le même savoir-faire que le soudeur d'acier.
Mayakovsky.
Et le théâtre.
Mayakovsky.
Et Meyerhold.
Mayakovsky.
Et Malevitch.
Mayakovsky.
Dessinant les fenêtres de Rosta.
Mayakovsky.
Et la revue Lef.
Mayakovsky.
Et Tretiakov. Et Eisenstein. Et Vertov.
Mayakovsky.
Écrit une ode au mineur de Koursk.
Mayakovsky.
Composant dans sa tête et en marchant. Voilà pourquoi j'ai plus avancé mon poème sur Eisenin pendant le court chemin qui sépare le passage de Loubianka et la Roumanianskaya que pendant tout mon voyage.
Mayakovsky.
Et Barbara Stepanova.
Mayakovsky.
Et Hein.
Mayakovsky.
Et la théorie de la relativité.
Mayakovsky.
À Königsberg. Il y plume aux cartes un riche émigrant qui avait sorti de Sibérie du platine en quantité colossale.
Mayakovsky.
Et les voyages. Voyager est un besoin pour moi. Le commerce avec les choses vivantes remplace presque pour moi la lecture des livres.
Mayakovsky.
Pleurant à l'enterrement de Lénine.
Mayakovsky rédigeant un requiem de 3000 vers, Vladimir Ilitch Lénine, dédié au parti communiste russe.
Mayakovsky.
Et le terrier Scotty.
Mayakovsky.
À l'hôtel Istria, à Montparnasse.
Vladimir Posner, devant les chaussures de Mayakovsky. J'examine. Mayakovsky, chose du 46.
Mayakovsky.
Et Picasso.
Mayakovsky.
Et Delaunay.
Mayakovsky.
Visite Paris avec Fernand Léger.
Mayakovsky.
Se fait faire des chemins place Vendôme.
Mayakovsky.
Flambeur.
Mayakovsky.
Je hais tout ce qui est mort. J'aime tout ce qui vit.
La lettre sur le futurisme russe adressée à Trotsky est de Mayakovsky.
Le rire rare de Mayakovsky.
Mayakovsky.
Agitateur.
Mayakovsky.
Double jeu.
Mayakovsky.
Et le tocsin des mots.
Mayakovsky.
À l'exposition universelle de Paris. L'exposition d'un ennui et d'une inutilité extrême.
Mayakovsky.
Embarque pour le Mexique à bord du paquebot Espagne.
Je n'ai appris à parler ni le français ni l'espagnol. Par contre, j'ai travaillé ma mimique, étant donné que c'est mon seul moyen d'expression.
Mayakovsky.
À New York, Cleveland, Détroit, Chicago, Philadelphie et Pittsburgh.
Mayakovsky.
Retrouve Bourliouk.
Mayakovsky.
Se heurte à une interdiction de voyager.
Mayakovsky.
Et Tsvetlaya. Ses jambes rapides ont emporté Mayakovsky bien loin. Au-delà de notre époque, et longtemps encore, il nous attendra quelque part au tournant.
Mayakovsky
lit Les Bains au théâtre de Meyerhold, qui est enthousiaste.
Fiasco total de la première à Leningrad.
Exposition rétrospective, tout ce que Vladimir Mayakovsky a écrit, 1909-1929, boycotté par les écrivains, les hauts fonctionnaires du parti... Et la presse.
Mayakovsky.
Quitte le Lev pour l'association des écrivains prolétariens.
Mayakovsky.
Malade et inquiet.
Perdre ma voix est pour moi aussi grave que pour Chaliapine.
La voix de Mayakovsky.
Le public de Mayakovsky.
Mayakovsky.
Et le prolétariat.
La compréhension des masses est le résultat de notre lutte et non la chemise dans laquelle naissent les livres prédestinés d'un quelconque génie littéraire. Il faut savoir organiser la compréhension d'un livre.
Mayakovsky.
Censuré. La revue Presse et Révolution fait arracher sur ses 5000 exemplaires une page qui lui rendait hommage.
Mayakovsky.
Et Nora.
Les derniers jours de Mayakovsky.
Le 14 mars 1930, Mayakovsky se tire une balle. Pistolet automatique de la marque Mauser.
Maman, mes sœurs et camarades, pardon, ce n'est pas une bonne méthode. Je ne la conseille à personne, mais je n'ai pas d'autre issue.
De Berlin, Lily et Ossip envoient à Mayakovsky une carte postale et achètent pour lui une canne et une boîte de cigares. L'extraction du cerveau de Mayakovsky,
emportée dans une bassine recouverte d'un drap blanc,
c'était un gros cerveau. 1700 grammes, 360 grammes de plus que Lénine.
Donc c'était un texte que j'ai trouvé sur un blog écrit par Liliane Giraudon sur Mayakovsky. Mais sans plus tarder, on va vous lire un poème, un extrait de poème qui s'appelle 150 millions.
Maintenant, tournons la roue de l'inspiration. La mesure du rythme est nouvelle. Dans cette partie, le personnage principal est Wilson, le lieu de l'action, l'Amérique. Quand le monde a constitué la Le
quintettes, des parties du globe, il l'a doué d'une puissance magique. On y trouve une ville dressée sur une seule vis, tout entière électrodynamo-mécanique. À Chicago, 14 000 grandes rues sont les rayons des soleils et des places. De chacune partent 700 ruelles, assez longues pour qu'un train y roule une année. Quel étonnement pour l'homme, ce Chicago ! À Chicago, la lumière est telle que le soleil n'y a pas plus d'éclat qu'un cierge d'un sou. À Chicago, même pour lever les sourcils, même pour ça, on a la traction électrique. À Chicago, les acrobates d'acier des routes galopent dans le ciel sur des kilomètres. Quel étonnement pour l'homme, ce Chicago. À Chicago, chaque habitant a au moins le grade de général. Son travail ? Être dans les bars, faire la fête sans charge ni souci. Quelle nourriture dans les bars de Chicago n'a-t-on pas inventé ? Quel étonnement pour l'homme, ce Chicago ! Quel étonnement ! Quelle merveille ! À Chicago sévit un tel bruit qu'un camion avec un moteur de 1000 chevaux ne semble qu'un tranquille bambin qui s'aère ou bien le glissement silencieux d'une souris. Les bateaux dans cette ville
n'emmènent pas les Russes.
Les étages des palais ne sont pas pour nous.
Moi seule, j'y suis allée.
J'ai bu et mangé dans les bars.
J'ai pris dans les bars du gin avec les Yankees.
Peut-être, un jour, on vous laissera y aller. En attendant, farcissez-vous, vous aussi, de miracles.
Parcourez vous-même l'Amérique avec les bottes des Celtes, lieu des vers.
La station aérienne est un gratte-ciel.
En avant, et qu'on se serre les flancs dans le dirigeable.
Les ponts se resserrent jusqu'à devenir des côtes de moineaux.
Chicago, en bas, est comme encrapaudé.
Puis,
du ciel,
où nous étions à peine visibles,
nous détachons brusquement, nous ferons vers l'abîme le vol plané d'une pierre.
Par le tunnel du métro, nous creuserons des kilomètres sous terre et nous ressortirons sur une place noyée de monde.
Elle fait dans les 3 kilomètres de large.
Ici commence ce qu'il nous faut.
La rue Royale.
Dans leur langage,
Royal Street.
Qu'est-ce que c'est que cette rue ?
Qu'y trouve-t-on ?
On y trouve...
Le Triple Strong Hotel.
Mais est-ce un hôtel ou bien un rêve ?
Dans cet hôtel, bien au propre et bien au chaud, Woodrow Wilson, en personne.
Comment est la maison ? Je ne vous le dirai pas. Et si je vous le disais, je vous prierais humblement de n'en rien croire.
Il n'y a pas d'endroit d'où l'on puisse l'embrasser tout entière du regard.
On ne peut en voir à la fois qu'un petit coin, mais c'est déjà...
si stupéfiant ! Il suffit de regarder, par exemple, un morceau de grille forgé en soleil concentré.
Si on l'aborde par les flancs,
une vraie montagne,
à des centaines de kilomètres,
peut-être à des milliers,
les girouettes montent jusqu'au 7e ciel.
À croire que c'est Dieu qui les nettoie.
Et puis, quel escalier
immontable !
Entre les petites colonnes,
les petits balcons
et les portiques,
il y a tant de marches
que les semelles ne sauraient les compter.
Des marches
à n'en plus finir.
Si on veut les monter à pied, il faut partir jeune.
Et encore,
on n'est pas sûr d'y arriver dans sa vieillesse.
Le long des ascenseurs, il y a des auberges pour ne pas mourir de faim en route.
Quand vous arrivez,
si on est content de vous voir,
on vous admet par 5 dans l'entrée de parade.
Les hôtes traversent d'abord 300 pièces. Enfin, on y est.
Quel spectacle !
À bas votre ordre, à bas votre amour, à bas votre religion, c'était ce que Vladimir Maïakovski a écrit dans la préface de 1918 de son Nuage en pantalon.
Cela se passa, à Odessa se passa. À 4 heures, je serai là, m'avait dit Maria. 8 heures. 9. 10. Voici que même la soirée, entrant dans le nocturne effroi de la croisée, s'en est allée, renfrognée. Décembre pris de froid. Dans son dos décrépit, ricanent, hennissent les lampadaires. Vous ne pourriez me reconnaître en cet instant. La masse de nerfs et gémissements, crispements. Que peut bien désirer un tel amassement? Las, l'amas a beaucoup de désirs. Trop évident que pour soi, pas d'importance, qu'il y ait existence de bronze, que le cœur se soit ferraille froide. La nuit nous vient envie d'avoir pour tintinabulis l'abri du câlin, du féminin. Et voilà que moi-même, Massifama, boule courbe contre la vitre, je fends de mon front le carreau de la fenêtre. Y aura-t-il amour ou non? Amour de quelle dimension? Petit ou grand amour? Un grand amour de la part d'un corps si court, probablement un tout petit amour, une toute douce amourette d'amour. Un amour qui, de côté, quand une auto klaxonne, se jette. Un amour pour les sonnettes des tramways à chevaux pris d'amourette. J'attends encore, pressé contre la pluie. J'attends encore. Mon visage sur le visage vérolé de la pluie. Le ressac de la mer citadine m'éclabousse de son tonnerre. Minuit. Canif en main, courant à toute force, rattrape, égorge, à la trappe. La douzième heure est tombée. Telle d'un échafaud, la tête d'un condamné.
Attrape l'avenir par les ouïes, camarades. Vladimir Maïakovski était donc un révolutionnaire né en 1893 et il a adhéré très jeune, à 14 ans, au Parti ouvrier social-démocrate russe, le Parti bolchévique. Il a participé au soulèvement de 1905. Il a été emprisonné à la prison, la célèbre et triste prison de Boutyrka en 1909, où il a passé 11 mois en cellule d'isolement. Condamné donc sous le tsar pour publication clandestine et complicité avec les anarchistes expropriateurs. Pour Maïakovski, le quotidien, c'était vraiment son ennemi. Il disait « la terre entière se convulse de désirs ». Il a participé à la revue d'avant-garde soviétique qui s'appelle la revue Lev, qu'il a fondée en fait en 1923 avec Ossip Brik, dont on a brièvement parlé tout à l'heure. Il était amoureux et de Lili Brik et de Elsa Triolet, donc vous l'avez compris, Maïakovski était un grand amoureux. Et donc dans cette revue Lev avec Ossip Brik...
L-E-F, hein, pas Lev la bière.
Non, pas la bière. Il y a participé des écrivains. Il y avait Isaac Babel, Nikolai Assif, Serge Tretiakov. Des cinéastes qui ont participé, donc Eisenstein, Dziga Vertov. Des metteurs en scène aussi comme Meyerhold. Et chaque couverture était illustrée par Alexander Rodchenko. Ensuite, la Rosta, qui était l'agence télégraphique russe de 1918 à 1925, a embauché Maïakovski, notamment pour réaliser des affiches. Mais Maïakovski était donc aussi un réalisateur. Il a notamment réalisé un film muet en 1918 qui s'appelle « La demoiselle et le voyou ». Et en parlant de hooligan, on va vous faire écouter une petite musique de hooligan. We'll be right back.
Vous êtes bien sur Radio Canu et vous écoutez le Théâtre de la Gamelle, une émission spéciale sur Vladimir Maïakovski. Et donc, nous allons lire un extrait de La Grande Lessive, une pièce écrite en 1929. Cette pièce est un drame en 6 actes avec cirque et feu d'artifice. Et donc, a pour objectif de lessiver les bureaucrates. Tchoudakov, interprété par Jules Vélocipetkin et Foskin, sont réunis pour parler d'une machine à voyager dans le futur.
Une table côté cour et une autre côté jardin. Des plants tapissent les murs et jonchent le sol. Au milieu de la scène, le camarade Foskin manipule une lampe à souder allumée. Tchoudakov vérifie une série d'ampoules électriques, un schéma à la main.
Alors, cette garce de Volga tombe toujours dans la mer Caspienne ?
Mais elle n'en a plus pour longtemps. Vous pouvez vendre vos montres et les mettre au clou.
Je n'en ai pas encore acheté, moi. Quelle chance.
N'en achète pas. En aucun cas. Cette mécanique stupide et plate sera bientôt d'un effet comique, telle une chandelle devant le Dnieper Story. Et plus impuissante qu'un taureau dans un dépôt des ponts et chaussées.
Alors, la Suisse est refaite ?
16 additionner vulgairement le quotidien sur ta caisse enregistreuse. Mon idée est tout simplement grandiose. La Volga du temps humain où nous étions jetés jusqu'à présent par notre naissance, pour partir à la dérive, ballottée par les vagues, cette Volga-là nous est soumise. Selon mon bon plaisir, le temps arrêtera son cours ou fuira dans la direction désignée à la vitesse voulue. Les hommes pourront quitter les jours comme un tram ou un autobus. Ma machine te permettra d'immobiliser un instant le bonheur, de t'en saouler tant que tu en auras envie. Ma machine dispersera les années de misère et de malheur qui s'étirent sans fin, aussi facilement qu'un tourbillon de poussière, et le soleil les balayera en te frôlant 100 fois par minute comme un obus sans dommage ni blessure. Si tu prends la précaution de rentrer la tête dans les épaules. Voilà donc l'imagination volcanique de Wells, le cerveau futuriste d'Einstein, l'hibernation zoologique des ours et des yogas. Cette machine presse, comprime et condense tout.
Je ne comprends presque rien et je suis certain de rien voir du tout.
Mets donc tes lunettes. Tu es aveuglé par l'éclat du chrome et du cristal, par les rayons qui s'entrecroisent. Tu vois ? Tu vois ?
Je vois...
Regarde, as-tu repéré ces deux règles graduées ? Une horizontale et une verticale, comme dans une balance. Les vois-tu ?
Je vois...
Ces règles servent à mesurer le volume d'espace nécessaire. Vois-tu cette roue manométrique ?
Je vois...
C'est une clé pour isoler l'espace intégré qui devient ainsi indépendant de tous les courants d'attraction terrestre. Quant à ces étranges petits leviers, ils te permettent de déterminer la vitesse et la direction du temps.
Je comprends. Mais c'est formidable ! C'est extraordinaire ! Alors, par exemple... Si un congrès se réunissait chez nous pour étudier les problèmes posés par la suppression des problèmes en cours, et si on donnait la parole au camarade Kogan, comme il va de soi, pour transmettre le salut de l'Académie d'État des Beaux-Arts scientifiques, dès ses premiers mots, « Camarade, à travers les tentacules de l'impérialisme mondial, monte comme un fil rouge le flot des... » Je pourrais l'isoler du bureau de séance tout en mettant le temps en marche à une vitesse de 150 minutes en un quart d'heure. Il pourrait toujours saluer et suer et saluer pendant 1 heure et demie sous les yeux du public. L'académicien vient à peine d'ouvrir la bouche qu'il est déjà salué par des applaudissements frénétiques. On pousse un soupir de soulagement et le derrière bien frais, on s'en va au travail. C'est bien ça ?
C'est dégoûtant. Mais que vient faire ce Kogan dans tout ça ? Je t'explique qu'il s'agit d'un problème à l'échelle de la relativité cosmique. Le temps cesse d'être défini comme substance métaphysique. De nous-mêmes, il devient réalité, soumis au déterminisme physico-chimique.
Mais c'est bien ce que je dis. Construis-toi une station scientifique bien matérielle avec tous les déterminismes physiques et chimiques. Nous allons y brancher tous les centres avicoles, par exemple, et obtenir en 15 minutes des poules de 10 kilos. Après quoi, une fiche sous l'aile, le temps débranché, elles attendront tranquillement d'être rôties et digérées.
Mais quelle station avicole ? Quelle poule ? Non, je te comprends.
Bon, tu peux t'occuper d'éléphants ou de girafes si l'idée seule de la volaille est une atteinte à ta dignité. Nous, on se charge d'adapter tout ça et... à de vulgaires poussins.
Mais quelle médiocrité, mais tu me feras bientôt devenir poule moi-même avec ton matérialisme sordide. Mais j'aspire à prendre mon vol et toi tu m'arraches aussitôt mes plumes.
Allons, ne t'excite pas. même si je t'ai arraché une plume au passage, bah, il ne faut pas m'en vouloir. Et je te la remettrai en place. Envole-toi, plane, invente. Nous ne voulons pas brider ton enthousiasme, mais le stimuler. Ne fais donc pas la tête, mon gars. Tourne la manivelle. Mets-la en marche, ta machine. Tu as besoin d'un coup de main ?
Attention, un petit mouvement de la roue et le temps libéré comprimera et modifiera l'espace enfermé dans la cage des isolateurs. En ce moment, j'enlève le pain de la bouche au prophète, devin et diseuse de bonne aventure du monde entier.
Attends, Tchoubakov, si je m'y mettais ? Dans 5 minutes, peut-être, le membre du Komsomol que je suis sera transformé en un Marx barbu. Ou bien non, je serai un vieux bolchevique, membre du parti depuis 300 ans. Toutes ces histoires seraient réglées en un clin d'œil.
Mais attention, malheureux. Si cet espace devait être occupé par l'armature d'acier d'un futur métro souterrain, ton petit corps frêle, pris dans la masse de l'acier, serait immédiatement transformé en poudre dentifrice. Les wagons futurs dérailleront peut-être et notre cave sera écrasée comme une coquille de noix par un tremblement de temps sensationnel. Il est dangereux de s'y aventurer pour l'instant. Il faut attendre ceux qui en viennent. Je démarre en douceur. 50 par minute, pas plus.
Un instant, camarade. De toute façon, tu vas la faire tourner, ta machine. Laisse-moi mettre une obligation d'État dedans. Dans 5 minutes, je gagnerai peut-être 100 000 roubles par tirage ou sort. Je ne veux pas le lâcher, ce papier. Il doit certainement être gagnant.
Ah, gros malin! Il faudrait toute la commission aux finances. Sinon, même si ton billet gagne, ils ne te croiront pas et demanderont à voir la liste.
Allons bon. Je vous fraye la voie vers l'avenir et vous ne voyez que les roubles. Mais vous êtes que des matérialistes historiques.
Ne sois pas pénible. C'est pour toi que je veux gagner. Tu as de l'argent pour réaliser ton expérience.
Oui, de l'argent.
De l'argent.
Le Zaoum. Donc, le Zaoum, c'est fait du préfixe za, qui veut dire au-delà, et du nom oum, qui veut dire esprit. Donc, on peut traduire ça par au-delà de l'esprit. Et c'était un type de poésie qui a été donc inventé par les futuristes russes, dont Velimir Klepnikov, Alexei Krouchenik, Ilias Danevitch et donc Vladimir Mayakovsky. Ils s'intéressaient aux sons pour et par eux-mêmes.
Au-dessous de moi, c'est le pont des vents. Je suis Gujdarmak. Je suis Gujdarmak, le prophète du siècle présent, et je tiens dans ma main Frachokereti.
Velimir Klepnikov a écrit ce poème. Donc ça s'intéresse plus au côté phonique, privilégie le sens, exprime les émotions, les sensations. Les sens, en fait, précèdent les significations et représentent un élément de la communication humaine. Klepnikov disait aussi
« La verbocréation est l'ennemi de la pétrification livresque de la langue ».
Nous allons maintenant écouter un extrait du poème écrit par Mayakovsky, « Le prolétaire volant ».
Ce qui sera une année avec des zéros à l'infini.
Les derniers tonnerres des batailles auront fini de tonner.
À Moscou, il n'y aura plus ni ruelles,
ni rues,
rien que des aérodromes
et des maisons.
Les jours futurs
nous seront obscurs
et indistincts.
Mais,
en matière de plaisanterie,
je vais représenter un citoyen de l'avenir pendant un jour et une nuit.
Le matin,
8 heures, le rat du réveil poli crie
« Camarade, levez-vous ! Si vous ne dormez plus, l'usine appelle. Pour le moment, rien à commander au réveil ? Au revoir. Salut !»
Surgissant du sommeil, mais déjà tout à son ardeur active, le citoyen a branché l'autoraseur électrique.
1 minute,
et le voilà peigné.
Ses joues sont plus lisses que la citoyenne Vénus de Milo elle-même.
Il a planté la fiche dans la prise,
ouvert la bouche,
et l'électrobrosse,
hop,
fait briller les dents.
Plus besoin de personnel. Appelé par un bouton, la baignoire elle-même
vient clapoter sous lui.
D'abord,
elle le savonne,
puis se met
à le gratter et à le frotter.
Un coup de sonnette,
et le plateau à thé de lui-même se présente sous le nez du citoyen.
Pour le vêtement, il n'y a plus ni veste,
ni pantalon.
La chemise ne sert plus et des mesures trop étroites.
D'un coup, il s'enveloppe des talons jusqu'aux mains dans la soie. d'une pièce génialement taillée.
Il glisse sa paire de pieds dans des chaussures.
On sonne à la fenêtre.
Venu tout droit du sein des cieux jusqu'à son lit,
le facteur ailé entre en planant.
Ce n'est pas un ordre d'expulsion,
ni une feuille d'impôt,
mais une lettre de sa bien-aimée
et quelques autres venant d'amis.
Son fils arrive en courant.
Un costaud petit bonhomme.
Au revoir, je m'envole au lycée.
Et où est Vania ?
Au jardin, il volette avec sa nourrice.
Mayakovsky a écrit en 1913, donc à l'âge de 19 ans, une pièce de théâtre dont on va vous lire un extrait. On va vous lire en fait tout l'acte, enfin non, une partie de l'acte 1. Et donc cette pièce de théâtre, en 1913, il l'a intitulée Vladimir Mayakovsky.
C'est trop fort pour vous. Moi, si calme, sous l'orage des rires, je porte mon âme sur un plat au festin des jours futurs. Coulant comme une larme vaine sur le poil des places publiques, peut-être suis-je le dernier poète. Avez-vous remarqué? Dans les allées de pierre, le visage zébré de l'ennui vacille au bout d'une corde et les ponts lèvent des bras de fer sur l'écume des fleuves au galop. Sonorité. Le ciel sanglote sans retenue. Une grimace tord la commissure du nuage, telle une femme après l'attente qui reçoit du ciel un avorton. Le soleil aux doigts dodus, poil follet, vous caresse. Odieux comme une mouche. Vous, esclave épuisé de baisers. Impavide, je porte dans les siècles haine aux rayons diurnes, nerfs électriques. Mon âme étendue, je suis le roi des lampes. Venez à moi, vous tous qui brisez le silence, vous qui criez « Midi, nœud coulant trop serré !» Venez avec des mots simples, comme « mugir », j'ouvrirai pour vous nos âmes neuves, crépitant comme un arc électrique. Je vous toucherai à la tête, et vos lèvres pousseront pour d'énormes baisers. Vos langues propres à tous les peuples et moi boitant de l'âme, j'irai vers mon trône, sous les voûtes trouées d'étoiles. Je m'étendrai, lumineux, vêtu de paresse sur une couche molle de vrai fumier, paisible. Serrant les genoux des traverses et la roue d'une locomotive me prendra par le cou.
Messieurs, messieurs, veuillez repriser mon âme. Le vide s'infiltre. Comment savoir? Un crachat est-ce un jure? Sec. Je suis sec comme une femme de pierre, vidée comme une vache. Le voulez-vous? Un merveilleux poète pour vous dansera. Cherchez les gras aux maisons escargotes, rythmez la joie sur les cuivres des panses, prenez par les pieds les sourds, les stupides, gonflez leurs oreilles comme naseaux de flûte, brisez le fond aux futailles de haine. Moi, je ronge idées comme pavé rouge. Aujourd'hui, levez vos verres. Je ceins ma couronne de folie. Gueux, diamantaire, tailleur de rimes, troussant les couettes en belle demeure, j'allume la fête universelle pour vous, riche gueux pittoresque.
Laisse. Les sages n'ont que faire des hochets comiques. Je suis un vieillard millénaire. Je vois en toi une croix de rire qui porte un cri de douleur. Une immense peine est tombée sur la ville, des centaines de petites peines. Querelles et tapages, des bougies, des lampes éteignent le murmure des aubes. Nul le pouvoir des molles lunes, les fringantes lanternes ont plus d'éclat pour nous. Des choses sans âme, on seigneurie au pays des villes, elles complotent notre perte. Du haut du ciel, pris de folie, un dieu regarde hurler la meute des hommes, les mains dans les mèches folles de sa barbe, rongées par la poussière des routes. Dieu est Dieu, annonceur d'expiations cruelles, et vos âmes usées ne sont que soupirs. Laisse-le. Gonflez vos panses arrogantes et les brioches de vos joues grasses. Suce au chat.
luisante laine de corbeau. Capturer l'étincelle électrique de leurs yeux, ce n'est pas ce qui manque. Énergie débitée par le réseau des muscles. Que les trames tournent, que les drapeaux des lampes illuminent la nuit. Le monde va bouger, maquillé de joie aux fenêtres. Les fleurs pavoissent, entraînent les hommes sur les rails et les chats noirs suivront. Les chats. Les chats. Épinglons mille soleils au corsage de nos belles, forgeons les étoiles en barrettes de diamants. Laissez vos logis. Allez, qu'on caresse les chats noirs et secs.
C'est bien vrai. Sur la ville, voyez, dressez les hampes des drapeaux. La femme des gouffres noirs sous les paupières va, frénétique, couvrant les trottoirs de crachats. C'est l'origine de grands éclopés. Une faute ignorée est expiée sur la ville. Les hommes s'attroupent et fuient. Entre les papiers peints, les ombres du vin, un musicien mangé de rides pleure sur son piano. L'idée des douleurs s'amplifie sur la ville. On veut prendre une note. Les doigts saignent. Les dents blanches de l'instrument rageur sont fermées sur les mains du pianiste. Ouch! Aujourd'hui, dès l'aube, la lèvre du machiche nous prend à l'âme. J'ai marché, convulsif, bras ballants. Sur les toits dansaient les cheminées et leurs genoux faisaient 44. Cessez, messieurs! Est-ce possible? Chaque ruelle retrousse ses manches. Bagarre! Et mon angoisse augmente sans peine ni raison comme une larme sur la gueule d'un chien.
Ouf! 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 Ouf!
Et voilà, chers auditeurs, c'était donc une émission spéciale sur Vladimir Maïakovski. Et donc, je vais vous laisser en compagnie d'autres révoltés, le groupe NTM. Mais je ne résiste pas à vous dire une dernière petite citation de Vladimir Maïakovski. « J'ai tendu mon âme comme une corde, jongleur de mots, je marche sur le vide. »
Y'a mon fond qui est bestial, se fout ton jus, les
pare-balles.
Prenant appui sur les victimes quand ça les arrange. Tu sais, leur est-il légitime?
moi ça me dérange.
Je vais juste,
tu crois que tu vas me la faire à moi, mais
je vais juste,
et je suis pas prêt de lâcher l'affaire, mais
je vais juste,
tu crois que tu vas me la faire à moi, mais
je vais juste.
C'était donc l'émission Mayakovsky.
Bien
c'est
sûr.
Toujours le théâtre de la gamelle. Voilà le temps de la chronique. Cette semaine, enfin ce week-end pour être plus précis, je suis allé voir Piscine, pas d'eau de Marc Ravanil, avec Pauline d'ailleurs,
ouais.
Dans la mise en scène de Cécile Oxfir-Marmouget au théâtre des Célestins. Première fois qu'on fait le théâtre des Célestins en chronique. C'est avec aussi David Ayala, Olivier Kiktef, Caroline Huillier-Combal et Frédéric Giroux. Sacré farceur, ce Raven Hill qui nous fait là le plus gros paf le chien de toute l'histoire du théâtre. Et donc voici Piscine Pado de Marc Raven Hill en 3 minutes.
Et c'était l'autre jour, là.
Il y a quelques mois, genre.
Elle n'était pas là.
C'était l'été, on peut le dire.
Si tu veux, on peut le dire.
Elle n'était pas là.
Elle n'est jamais là.
Non, c'est exagéré.
Elle n'est jamais là.
On peut dire ça.
C'était l'été. Et l'histoire de la piscine, c'était forcément l'été.
T'en es encore là, toi ?
C'était l'été.
On s'en fout. Bon, elle n'est jamais là.
Quelqu'un veut une bière ?
Si, ouais. Elle était là quand ? Tu sais, c'était énorme.
Oui, c'était énorme.
Bah, les enterrements de potes, c'est sûr. Bah, c'est moins glamour.
La piscine, donc.
Elle était pas là pour l'enterrement.
C'était l'été.
Quelqu'un a vu une trace?
Ouais. Là, elle était là, même que c'était sa piscine.
Mais c'est nous qu'on était là, donc.
Mais c'est pas l'important.
Étymologiquement, c'est que nous, on était là.
C'est pareil.
On s'en fout.
Étymologiquement, nous.
Quelqu'un veut un cacheton?
Elle était là, là, c'était sa piscine.
T'es là.
Bon.
Moi, vous savez, je dis juste que étymologiquement.
Ta gueule.
Et quelqu'un veut fumer un emballage de McDo?
Elle était là, pour une fois. Et avec nous, nous avec. C'était cool.
Tous ensemble.
À poil.
C'était cool.
C'était énorme.
C'était cool.
Oh, quand t'es là, et quand
énorme.
T'es là.
La barre de rire, mon pote.
Énorme.
Une bière?
Je suis sûr que j'ai la photo.
Elle était là, genre, là.
J'ai la photo, là, quelque part.
Ah, c'était énorme.
T'as autre chose dans ton vocabulaire?
Bon, elle était là, et là. Et...
Là, la photo.
Et époustouflant.
Non, mais laisse. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que...
Quelqu'un a pris une bière, je crois.
Et... Épithète.
Et là, elle est arrivée.
C'était épithète, mais ça veut rien dire.
Mais parle-leur de la piscine.
Bah, c'était une piscine.
Quelqu'un, quelque chose?
Non, mais comment ça s'est passé
Tenons-nous-en au fait.
Bah, c'était une piscine. Une piscine, quoi? Enfin, c'est con.
Non, sa piscine, c'est ça le plus drôle.
C'était sa piscine.
Au fait.
C'est ça le plus drôle.
Ah, au fait, quelqu'un veut une bière?
Ouais.
Ouais, passe.
Ergo, bah, elle était là.
Ouais, je dois bien l'admettre.
C'était énorme.
Non, mais tu vas en prendre une. Énorme.
Une bière?
Je prends.
Bah, là, genre, elle arrive.
Pépère.
Il y a l'autre qui a une photo.
Le meilleur moment.
La photo?
Eh non, la bière.
Mieux qu'un long discours.
Ah, c'est sûr.
La bière.
Tu viens d'en prendre une.
Attendez.
La photo?
Seconde.
Accouche.
La photo?
Là.
Là, là.
Là.
Je vous avais dit que c'était énorme.
C'est quoi ça?
Thank you.
Ah, merci Miguel.
Merci Thomas Lee pour cette chronique.
Bon craquage.
Voilà, c'était Piscine pas d'eau de Marc Ravenhill en 3 minutes. C'est en ce moment au Théâtre des Célestins, ce soir et demain samedi à 20h30.
C'est à la salle Célestine.
À la salle Célestine, voilà. Souvenez-vous que les emballages de McDo sont à fumer avec modération. Et bon week-end à tous. Maintenant, s'il y a d'autres annonces sur le théâtre cette semaine aussi.
Oui, ouais. Alors moi, je commence. C'est pour la compagnie Les Montures du Temps. Nous organisons un stage de théâtre pour les 6-12 ans pendant les vacances de février. C'est du 22 au 26 février. Le stage se fait entre 9h et midi et c'est au 169 Grande Rue de la Guillotière. Si vous souhaitez inscrire vos enfants, vous n'hésitez pas, c'est par mail. C'est à lesmonturesdutemps@free.fr. Et le fait qu'on organise en fait ce stage de théâtre, ça nous permet de financer la création de notre spectacle sur Kateb Yassine, la rue des Vandales. Voilà. Je laisse la parole à mes camarades.
Oui, camarades, merci. Moi, je voulais dire que cette semaine, au Théâtre de l'Uchronie, rue de Marseille, il y a le Kane Collectif qui va présenter Nothing Hurts 2. Folk Richter, j'ai toujours peur de d'écorcher le nom. Voilà, c'est alors oui les
c'est
dates.
Pas notre c'est faute en même temps.
Non, c'est ça. Alors les dates, ça peut être plus pratique. 17, 18, 19, 20 février, donc de mercredi à samedi, Tête de l'Uchronie, Kane Collectif, Nothing Hurts. Allez-y.
À 20h, 20h30
Vous regarderez, vous téléphonerez, ouais. Vous verrez. 20h ou 20h30, ça va.
Ça doit être 20h au Tête de l'Uchronie, généralement.
Possible.
Et Fatah ou Jules, d'autres nouvelles?
Moi, je peux faire deux annonces pour deux spectacles. Il y en a un qui se joue au Théâtre de l'Iris par la compagnie Andarjaleo, qui s'appelle Et si on s'embrassait.
J'y vais dimanche.
J'y étais hier, qui est un très beau spectacle. Très poétique, de très belles images. Donc c'est vendredi, donc c'est ce soir, samedi soir à 20h si je ne dis pas de bêtises, et dimanche à 17h ou 17h30. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site du Théâtre de l'Iris. Et puis un autre spectacle qui se joue au Théâtre Lune Passage Mermet qui s'appelle Les Encombrants.
Anne-Sophie.
Merci Fatah. Alors moi, j'ai plein de choses à dire, mais alors j'ai aucune information précise à vous donner. Donc c'est bien, je passe en dernier.
Ça va être pratique.
Je vous fais confiance, chers auditeurs, vous irez sur Internet. Alors je voulais juste parler de l'Oblique, qui est un lieu qui a été ouvert il y a quelques mois à Villeurbanne. C'est un squat, mais qui n'est pas squatté comme on peut l'imaginer, par un esprit uniquement punk. Il y a des vraies choses qui se passent là-bas. Il y a un hectare, c'est 1000 mètres carrés.
Une
grande surface. Pas supermarché,
voilà,
évidemment. Donc c'est un espace où, par exemple, ce week-end, je sais qu'il y a du hip-hop. Un week-end hip-hop tout le week-end. Voilà. Alors, je suis incapable de vous dire exactement l'adresse, si je l'avais noté quelque part, mais je ne la retrouve pas. Donc c'est pas très grave.
C'est à Villeurbanne, on tape
allez, voilà. Ouais, vous tapez l'Oblique, je pense, où il y a un site aussi qui répertorie tous les lieux intermédiaires, je crois, qui est, je ne sais plus. Mais je fais totalement confiance.
Mais oui.
Je sais que vous aimez le flou de toutes ces informations. Voilà, donc l'Oblique, un lieu à suivre, parce que évidemment, comme c'est un squat, ils vont être à un moment donné poussés vers l'extérieur de l'Oblique.
J'ai squatté.
Voilà. Donc je crois qu'ils sont la première instance. Se passe le 7 mars. Je vous invite, si vous passez ce week-end et que vous trouvez le lieu chouette et que vous vous dites « Ouais, il faut que des lieux comme ça perdurent parce que c'est nécessaire pour que le citoyen puisse s'engager un peu plus culturellement et dans la vie, tout simplement sociale », à écrire une lettre en disant « Ouais, je suis passée à tel moment, à tel endroit. Les gens qui y sont des gens sérieux. On sait bien tout le flou et la défiance qu'il y a autour des lieux intermédiaires, de la contre-culture. Mais vraiment, allez-y, sans a priori, avec grande curiosité, et je pense que vous allez être surpris. Je parle ça en tant que artiste de la friche artistique Lamartine, où nous, on est justement sur ces questionnements-là. Et je m'y suis retrouvée. Donc, allez-y à l'Oblique. Ensuite, je voulais revenir sur Malentendu, le titre du spectacle qui se passe à la Renaissance de Oullins, au théâtre de la Renaissance à Oullins. On a reçu Éric Massé la semaine dernière. Donc, je vous refais un petit appel, c'est à 20h. Ça se joue encore ce soir, demain?
Oui.
Ce soir. Ensuite, ça ira dimanche à Tassin.
À l'Atrium de Tassin
avec
pas,
un.
Pas samedi.
Il me semble pas que ça joue samedi. Et à Tassin, il y a un événement, c'est un événement global qui commence à 15h et dans lequel ils ont programmé un goûter dans le noir.
Ah oui,
pour,
c'est vrai.
Goûter à l'aveugle.
Un goûter à l'aveugle
pour voir comment on utilise d'autres sens.
Voilà, donc allez sur le site pareil de la compagnie des Lumas, LUMAS, pour revoir les dates et les horaires précis de Malentendu. J'avais encore un truc, c'est oui, alors là aussi, total délire, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. À la médiathèque de Vez, il y a la compagnie Germe 36 avec Pierre Germain. Ils ont été en résidence pendant 2-3 mois, il me semble. Je ne me souviens absolument pas du nom du spectacle. Mais je vous invite pareil à y aller. C'est à 19h, je crois.
Aujourd'hui ?
Ouais, c'est aujourd'hui et demain encore. Et ça a l'air un peu fou, un peu révolté, donc c'est pas mal.
Enfin, je pense qu'on peut avoir les infos sur la médiathèque de Vez.
Voilà, tout à fait. Donc allez sur Internet, notre ami Internet. Et puis la dernière chose, la compagnie Augustine Turpo part en marche d'hiver. Donc on part demain, samedi 13 février. On part de Valence, on va à Chabeuil, ensuite on traversera Crest, Saillan, Saint-Julien-en-Quin, Die, Sous, L'Oriol, et on revient à Valence le 20 février. Donc voilà, du coup vous pouvez retrouver les infos si vous êtes drômois ou si vous êtes de passage ce week-end dans la Drôme. Vous pouvez retrouver les lieux où on est accueillis, puisque cette fois on ne sera pas en extérieur, on ne jouera pas en espace public, on jouera du coup dans des lieux qui nous accueillent, voilà, qui ont misé un peu sur ce pari fou. Donc voilà, venez, vous pouvez aller sur le site de la compagnie, donc compagnie Augustine Turpo, T-U-R-P-A-U-X. Et voilà. Je crois que c'est tout.
Ok, donc on a compris, c'est un week-end
chargé,
très culturellement.
Et une dernière info pour finir avec un mot, révolution en trois mots. C'est la compagnie Les Chapchuteurs au théâtre Le Fou. C'est ce soir et c'est vendredi soir, samedi soir et dimanche à 17h. Voilà.
Ben voilà, si vous ennuyez en ce week-end...
Aucune excuse.
Vous n'avez aucune excuse, vous avez plein de choses à faire.
Bon courage pour choisir même.
Je rappelle donc que l'émission a été préparée par Anaïs Sintas sur des poèmes de Mayakovsky que nous avons pu découvrir aujourd'hui. Il y avait Thomaline, Anne-Sophie Ortiz-Balin, Fata Boudia, Jules...
Jobard,
voilà, j'ai fait perdre tout le monde. Pauline Thirault et moi-même, Amandine Vincent, ainsi que Auguste... Gustave, mais ouf, qui est un chien, voilà, vous le savez maintenant.
La mascotte.
Du coup, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end.
Bon week-end.
Et on se retrouve là.
Et allez au théâtre.
Prochaine pour le théâtre de la Gamelle, qui est quand même là pendant les vacances. Et oui, bien sûr,
je serai pas là moi.
À la semaine prochaine.
Vous ne vous attendez pas, allez au théâtre. Bisous.
Bisous, bisous.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeurs, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.